Marcher vers le bien-être avec Denis Chagnon.
Chers amis, bonjour, je m'appelle Denis Chagnon et je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Marcher vers le bien-être. Depuis quelques semaines, nous nous sommes joyeusement trimballés au Canada, en Europe et en Asie, notamment en Chine, en Indonésie, au Népal et au Tibet. Aujourd'hui, la grande artiste et lectrice Sophie Hartung nous lance une irrésistible invitation à vagabonder avec elle à travers les âges en compagnie de grands marcheurs et randonneurs qui ne cessent de nous inspirer. Henry David Thoreau, Ralph Waldo Emerson, Jean-Jacques Rousseau, Gustave Flaubert, Jacques Lacarrière, Jean-Christophe Ruffin et Charles Péguy. Dans sa chronique « La balade des mots », Sophie reprend pour nous certains textes signés de chacun de ses auteurs qui ont décrit chacun à sa façon la délectable saveur de la solitaire liberté, comme écrivait la nomade Isabelle Eberhardt. D'ajouter Eberhardt, le cheminot solide, assis sur le bord de la route et qui contemple l'horizon libre, ouvert devant lui, n'est-il pas le maître absolu des terres, des eaux et même des cieux? De quoi nous faire rêver de partir et de vivre pour un temps comme l'errant, pauvre de besoins, étranger et chez soi, partout. Voilà ce que nous vous proposons aujourd'hui. Alors, bonne écoute et bon voyage. Alors bonjour Sophie et merci beaucoup d'être des nôtres encore aujourd'hui pour votre merveilleuse chronique « La balade des mots ».
Bonjour Denis, je suis comme d'habitude très heureuse d'être avec vous.
Alors encore aujourd'hui, vous nous amenez très loin. L'errance, la randonnée, le vagabondage. Alors je crois que nous allons fort bien nous amuser.
Absolument, nous allons voyager.
Voilà. Alors, nous avons choisi des textes tirés d'un numéro de Philosophie Magazine, c'est un numéro hors série, dont le titre est « Marcher avec les philosophes ». C'est ce que nous allons faire aujourd'hui et vous aborder la lecture avec un texte de Sven Ortili qui est le rédacteur en chef. Alors, Sophie, on vous écoute.
Nous sommes une race de marcheurs. Pourquoi ? Parce que, écrit le paléo-anthropologue André Leroy-Gourhan, le départ de l'évolution humaine n'a pas été pris par le cerveau, mais par les pieds. Je marche, donc je pense. Et depuis que nos ancêtres australopithèques se sont levés il y a 3 millions d'années, la caravane humaine au Sahara du monde, chantée par Théophile Gautier, n'a plus jamais cessé d'avancer des bords du rift africain à la Silicon Valley. La marche est au cœur de nos gènes. Les fantasmagories apocalyptiques ne s'y trompent pas, qui en font le dernier trait d'humanité des Walking Dead, et le premier qui revient chez Montag, le pompier brûleur de livres de Fahrenheit 451, dans cette banlieue américaine où tout promeneur est un déviant. Marcher, penser, l'un ne va pas sans l'autre, dit Montaigne. « Mon esprit ne va si les jambes ne l'agitent. » Et après lui, Rousseau. « Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans les voyages que j'ai faits seul et à pied. » Et Nietzsche encore, « Seules les pensées que l'on a en marchant valent quelque chose. » Est-ce que cela épuise le sujet ? Certainement pas. Il y a autant de façons de marcher que de marcheurs. Et l'on pourrait aussi bien décrire la marche comme une façon de vider l'esprit, ou plutôt de le filtrer, d'écarter le superflu et d'atteindre l'élémentaire. L'élémentaire, c'est-à-dire le moment où toutes les marches, finalement, se ressemblent. Lorsque le marcheur oublie ou comment et pourquoi ils marchent. Lorsque, comme dit joliment Virginia Woolf, les pensées en marchant sont faites à moitié de ciel. Lorsqu'ils cessent d'être le sujet du paysage et s'y font dans une synesthésie qui mélange les odeurs, le paysage, les sons, sa fatigue et sa sueur, et qu'il éprouve cette pesanteur rassurante qui le tient, mais ne le retient pas, un pied devant l'autre, dans une instabilité qui réaffirme sans cesse son ancrage au sol. Entre l'immense et le minuscule, entre le ciel et la chenille, l'œil naviguant d'un infini à l'autre et les pieds pensant la texture de l'humus, le tranchant d'un silex, le piquant d'une brindille, il chemine dans le cosmos. Et si on lui demande « Où vas-tu ?» comme Hugo, il répond « Je l'ignore et j'y vais. »
J'adore cette réponse, Sophie.
Absolument, magnifique. Je suis d'accord, c'est magnifique.
Alors, notre premier texte portera sur justement la vie au grand air. Il porte sur Henri-David Thoreau, que nous connaissons bien, pour ses deux bouquins, De la marche et aussi Walden ou La vie dans les bois. Alors, Sophie, on vous écoute.
Je n'ai rencontré qu'une ou deux personnes au cours de mon existence qui aient compris l'art de la marche, à savoir celui d'aller se promener, qui est le don, pour ainsi dire, du sauntering, ce terme qui est si joliment dérivé de ces personnes désœuvrées qui vagabondaient de par le pays au Moyen-Âge et demandaient la charité sous le prétexte qu'elles se rendaient à la Sainte Terre. Tant et si bien que les enfants s'exclamaient « Voici un Sainte-Terraire, un Sainte-Terraire !» Un pèlerin en partance pour la Terre Sainte. Ceux dont les errances ne les menaient jamais à la Terre Sainte, comme ils le prétendaient, ne sont à la vérité que de simples vagabonds oisifs, mais ceux qui s'y rendent sont des promeneurs au bon sens du terme, tel que je l'entends. D'aucuns, cependant, font dériver le mot de « sans terre » qui, partant, signifierait « sans foyer » particulier, tout autant que « partout chez soi ». Car tel est le secret d'une promenade réussie. Celui qui demeure assis dans une maison tout le temps peut bien être le plus grand des cheminots, mais l'authentique promeneur n'est pas plus vagabond que la rivière sinueuse qui ne cesse de chercher opiniâtrement le plus court chemin jusqu'à la mer. Mais je préfère le premier sens du terme qui est sans nul doute l'étymologie la plus probable. Car chaque marche est une sorte de croisade prêchée par un Pierre l'ermite qui sommeille en chacun de nous pour aller reconquérir cette terre sainte qui est tombée aux mains des infidèles. C'est vrai, nous ne sommes que des croisés au cœur défaillant. Même les marcheurs d'aujourd'hui qui ne se lancent jamais dans la moindre entreprise de longue haleine, exigeant quelque persévérance. Nos expéditions ne sont que des périples qui nous ramènent le soir auprès de l'âtre d'où nous étions partis. La moitié de la promenade consiste à revenir sur nos pas. Nous devrions entreprendre chaque balade, sans doute, dans un esprit d'aventure éternelle, sans retour. Prêts à ne renvoyer que nos cœurs embaumés comme des reliques de nos royaumes désolés. Si vous êtes prêts à abandonner père et mère, frères et sœurs, femmes, enfants et amis et à ne jamais les revoir, si vous avez payé toutes vos dettes, rédigé votre testament, réglé toutes vos affaires et êtes un homme libre, alors vous êtes prêts pour aller marcher. Je suis inquiet quand, après avoir parcouru physiquement un mille dans les bois, je ne m'y trouve pas en esprit. Dans ma promenade de l'après-midi, j'oublie bien volontiers toutes mes occupations de la matinée et mes obligations vis-à-vis de la société. Mais il arrive parfois que je ne puisse me défaire aisément de la ville. La pensée de quelque travail occupera mon esprit. Et je ne suis pas où se trouve mon corps. Je suis à l'extérieur de mes sens. Au cours de mes balades, je retourne bien volontiers à mes sens. Qu'ai-je à faire dans les bois si je pense à quelque chose qui se trouve hors d'eux? Je me considère avec suspicion et ne puis m'empêcher de frissonner quand je me surprends à être complètement imbriquée dans ce que nous appelons de bonnes œuvres, car cela peut parfois m'arriver. Mes alentours offrent force belles balades, et bien que j'ai marché presque chaque jour depuis tant d'années et parfois depuis plusieurs jours d'affilée, je ne les ai pas encore tout épuisées. Une perspective absolument neuve est un grand bonheur, et je puis encore en dénicher n'importe quel jour. 2 ou 3 heures de marche m'entraîneront dans une contrée étrange que je ne me serais pas attendu à voir. Une ferme isolée que je n'avais pas vue auparavant, et parfois autant de valeur à mes yeux que les territoires du roi du Dahomey. Il y a en fait une sorte d'harmonie qui se peut découvrir entre les possibilités du paysage à l'intérieur d'un cercle d'un rayon de 10 000. En d'autres termes, les limites d'un après-midi de marche et les quelques 70 années d'une existence humaine. Cela ne vous deviendra jamais chose familière. De nos jours, presque tous les prétendus progrès de l'homme, tels que la construction de maisons, l'abattage des forêts et des grands arbres, déforment tout simplement le paysage et le rendent de plus en plus insipide et domestiqué. Je rêve d'un peuple qui commencerait par brûler les clôtures et laisser croître les forêts. J'ai vu des clôtures à moitié consumées, leurs extrémités perdues en plein milieu de la prairie, et un avare matérialiste, accompagné d'un géomètre, veillait sur les bornes de son domaine. Les cieux s'étaient déployés autour de lui, mais il ne voyait pas les anges aller de ci, de là, et il cherchait l'emplacement d'un vieux poteau en plein milieu du paradis. J'ai regardé à nouveau, et je l'ai vu, au milieu d'un marais stygien, bourbeux, entouré de démons. Il avait trouvé ses bornes à n'en point douter. 3 petites pierres où un pieu avait été fiché, et en regardant de plus près, je vis que le prince des ténèbres était son géomètre. Je peux, sans difficulté, marcher 10, 15, 20 milles ou plus en partant de chez moi, sans passer devant la moindre maison, sans croiser de chemin, sinon ce qu'empruntent le renard et le wison. D'abord le long de la rivière, puis du ruisseau, et ensuite par la prairie et les bois. Il y a des étendues de plusieurs milles carrés dans les alentours qui sont totalement inhabitées. Depuis nombre de collines, je puis voir au loin la civilisation et les demeures des hommes.
Et voilà. Sophie, c'est un texte qui nous a tous inspirés à prendre la route. Entreprendre une grande randonnée. Et ce que j'aime beaucoup également, c'est que à chaque pas, à chaque randonnée, c'est toujours une découverte, une redécouverte, parfois du même paysage.
Oui, et en fait, on dit que c'est le même paysage, mais au fond, est-ce que c'est vraiment le même? C'est ça qui... Parce qu'au fond, le paysage, moi, j'ai le sentiment qu'il est différent parce que à chaque fois que nous marchons, à chaque fois que l'on va se promener, nous ne sommes jamais le même ou la même. Donc, parce qu'on est dans un état d'esprit particulier, parce qu'on a le corps qui est plus ou moins en forme, plus ou moins fatigué, parce qu'on est habité par un certain nombre de choses. Donc, au fond, on pourrait faire et refaire, on dit la même balade, mais 100 fois, elle sera différente. Comme au fond, je vais faire un parallèle avec mon métier premier, qui est comédienne. Je veux dire, vous jouez 100 fois la même pièce, normalement, ce devrait être 100 fois une première fois.
Ah oui, oui.
Oui, c'est-à-dire parce que sinon il y a une routine, il y a une habitude, et le ton devient, et ça devient, passez-moi l'expression, ça devient lassant, ça devient pénible, alors que si c'est une redécouverte, et au fond, et je pense que ça fait naître l'émerveillement aussi, quand tout d'un coup, et on prend la même route et on dit, oh, mon Dieu, ça je ne l'avais pas vu, ça je... Et ce qui est très beau d'ailleurs, ce que dit, à un moment donné, quand Thoreau dit cette phrase, quand il parle avec l'histoire du géomètre, quand il dit, au fond, les cieux s'étaient déployés autour de lui, mais il ne voyait pas les anges aller de ci, de là. Et au fond, si on fait toujours les mêmes choses de façon routinière, on ne voit pas le ciel, on ne voit pas les anges, on ne voit pas ce qui est beau et qui, au fond, est à la fois pareil et pourtant tellement différent.
Et l'errance nous invite à nous abandonner, justement.
Oui, à nous abandonner, à regarder, oui. À éveiller nos sens.
compatriote de M. Thoreau s'appelle Ralph Waldo Emerson. Il a écrit un court texte qui résume aussi cet aspect fantastique de la randonnée en forêt. Justement, il l'appelle la forêt de jouvence.
Dans les bois se trouve la jeunesse éternelle. Parmi ces plantations de Dieu règne la grandeur et le sacré. Une fête éternelle est apprêtée et l'invité ne voit pas comment il pourrait s'en lasser en un millier d'années. Dans les bois, nous revenons à la raison et à la foi. Là, je sens que rien ne peut m'arriver dans la vie, ni disgrâce, ni calamité, que la nature ne puisse réparer. Debout sur le sol nu, la tête baignée par l'air joyeux et soulevée dans l'espace infini, tous nos petits égoïsmes s'évanouissent. Je deviens une pupille transparente. Je ne suis rien. Je vois tout. Les courants de l'être universel circulent à travers moi. Je suis une partie ou une parcelle de Dieu. Le nom de l'ami le plus cher sonne alors comme étranger et fortuit. Être frère ou ami, maître ou serviteur, apparaît comme un embarras et un détail sans valeur. Je suis l'amant de la beauté immortelle et sans entrave. Dans la nature sauvage, je trouve quelque chose de plus cher et de plus primordial que dans les rues ou les villages. À travers la tranquillité du paysage, et spécialement sur la ligne lointaine de l'horizon, l'homme contemple quelque chose d'aussi magnifique que sa propre nature. Le plus grand plaisir que procurent les champs et les bois est la secrète relation qu'ils suggèrent entre l'homme et les végétaux. Je ne suis pas seul et inconnu, ils me font signe et moi de même. Le balancement des branches dans la tempête est nouveau pour moi et ancien. Cela me prend par surprise et pourtant ne m'est pas inconnu. Ces effets sont semblables aux sentiments qui me submergent d'une pensée plus haute ou d'un sentiment meilleur lorsque j'estime que j'ai bien agi ou pensé avec justesse.
Et c'est une époque qui est tout autre, hein, celle de Thoreau, celle d'Emerson, parce que c'était un peu la grande nature là, qui n'avait pas cédé le pas à l'urbanisation, aux grandes villes, aux automobiles et tout. Là, on vivait vraiment dans la forêt ou tout près de la forêt. C'était absolument un temps magnifique.
Ouais, il y avait quelque chose de très sauvage encore, de très nature, si je puis dire. Une nature non dénaturée.
Nous passons maintenant au grand Jean-Jacques. Jean-Jacques Rousseau, je vous entends sourire.
Oui,
là.
Jean-Jacques Rousseau, ça me rappelle bien des souvenirs quand j'étais en philo.
Ah oui? Vous aimiez beaucoup...
J'aimais beaucoup, c'est-à-dire moi ce que j'aimais, surtout quand on a 17-18 ans, Jean-Jacques c'était un esprit libre. Bon, après, mais il y avait quelque chose de... c'était un esprit libre, c'était un homme qui les rêveries d'un promeneur solitaire... que j'ai pas aimé d'ailleurs spécialement lire quand j'étais au lycée, mais après, quand je les ai lus, il y a des choses très inspirantes.
Ouais. Alors Sophie, Jean-Jacques.
La chose que je regrette le plus dans les détails de ma vie, dont j'ai perdu la mémoire, est de n'avoir pas fait des journaux de mes voyages. Jamais je n'ai tant pensé, tant existé, tant vécu, tant été moi, si j'ose ainsi dire, que dans ceux que j'ai faits seul et à pied. La marche a quelque chose qui anime et avive mes idées. Je ne puis presque penser quand je reste en place. Il faut que mon corps soit en branle pour y mettre mon esprit. La vue de la campagne, la succession des aspects agréables, le grand air, le grand appétit, la bonne santé que je gagne en marchant, la liberté du cabaret, l'éloignement de tout ce qui me fait sentir ma dépendance, de tout ce qui me rappelle à ma situation, tout cela dégage mon âme, me donne une plus grande audace de pensée, me jette en quelque sorte dans l'immensité des êtres pour les combiner, les choisir, me les approprier à mon gré, sans gêne et sans crainte. Je dispose en maître de la nature entière. Mon cœur errant d'objet en objet s'unit, s'identifie à ceux qui le flattent, s'entoure d'images charmantes, s'enivre de sentiments délicieux. Si pour les fixer, je m'amuse à les décrire en moi-même, quelle vigueur de pinceau, quelle fraîcheur de coloris, quelle énergie d'expression je leur donne. On a, dit-on, trouvé de tout cela dans mes ouvrages, quoique écrits vers le déclin de mes ans. Oh, si l'on eût vu ceux de ma première jeunesse, ceux que j'ai faits durant mes voyages, ceux que j'ai composés et que je n'ai jamais écrits. Je me souviens d'avoir passé une nuit délicieuse hors de la ville, dans un chemin qui côtoyait le Rhône ou la Saône, car je ne me rappelle pas lequel des deux. Des jardins élevés en terrasse bordaient le chemin du côté opposé. Il avait fait très chaud ce jour-là. La soirée était charmante. La rosée humectait l'herbe flétrie. Point de vent, une nuit tranquille. L'air était frais, sans être froid. Le soleil, après son coucher, avait laissé dans le ciel des vapeurs rouges dont la réflexion rendait l'eau couleur de rose. Les arbres des terrasses étaient chargés de rossignols qui se répondaient de l'un à l'autre. Je me promenais dans une sorte d'extase, livrant mes sens et mon cœur à la jouissance de tout cela et soupirant seulement un peu du regret d'en jouir seul. Absorbée dans ma douce rêverie, je prolongeais fort avant dans la nuit de ma promenade sans m'apercevoir que j'étais là. Je m'en aperçus enfin. Je me couchais voluptueusement sur la tablette d'une espèce de niche ou de fausse porte enfoncée dans un mur de terrasse. Le ciel de mon lit était formé par la tête des arbres. Un rossignol était précisément au-dessus de moi. Je m'endormis à son chant. Mon sommeil fut doux, mon réveil le fut davantage. Il était grand jour. Mes yeux, en s'ouvrant, virent l'eau, la verdure, un paysage admirable. Je me levai, me secouai, la faim me prit, je m'acheminai gaiement vers la ville, résolu de mettre à un bon déjeuner 2 pièces de 6 blancs qui me restaient encore. J'étais de si bonne humeur que j'allais chantant tout le long du chemin. J'aime à marcher à mon aise et m'arrêter quand il me plaît. La vie ambulante est celle qu'il me faut. Faire route à pied par un beau temps, dans un beau pays, sans être pressé, et avoir pour terme de ma course un objet agréable. Voilà de toutes les manières de vivre, celle qui est le plus de mon goût. Au reste, on sait déjà ce que j'entends par un beau pays. Jamais pays de plaine, quelque beau qu'il fût, ne parut-tel à mes yeux. Il me faut des torrents, des rochers, des sapins, des bois noirs, des montagnes, des chemins raboteux à monter et à descendre, des précipices à mes côtés qui me fassent bien peur. J'eus ce plaisir et je le goûtais dans tout son charme en approchant de Chambéry. Non loin d'une montagne coupée qu'on appelle le pas de l'échelle, au-dessous du grand chemin taillé dans le roc à l'endroit appelé Chaille, court et bouillonne dans des gouffres affreux une petite rivière qui paraît avoir mis à les creuser des milliers de siècles. On a bordé le chemin d'un parapet pour prévenir les malheurs. Cela faisait que je pouvais contempler au fond et gagner des vertiges tout à mon aise. Car ce qu'il y a de plaisant dans mon goût pour les lieux escarpés est qu'ils me font tourner la tête. Et j'aime beaucoup ce tournoiement, pourvu que je sois en sûreté. Bien appuyé sur le parapet, j'avançais le nez et je restais là des heures entières, entrevoyant de temps en temps cette écume et cette eau bleue dont j'entendais le mugissement à travers les cris des corbeaux et des oiseaux de proie qui volaient de roche en roche et de broussaille en broussaille à 100 toises au-dessous de moi. Dans les endroits où la pente était assez unie et la broussaille assez claire pour laisser passer des cailloux, j'en allais chercher au loin d'aussi gros que je les pouvais porter. Je les rassemblais sur le parapet en pile, puis, les laissant l'un après l'autre, je me délectais à les voir rouler, bondir et voler en 1000 éclats avant que d'atteindre le fond du précipice. Plus près de Chambéry, j'eus un spectacle semblable, en sens contraire. Le chemin passe au pied de la plus belle cascade que je vis de mes jours. La montagne est tellement escarpée que l'eau se détache net et tombe en arcade assez loin pour qu'on puisse passer entre la cascade et la roche, quelquefois sans être mouillé. Mais si l'on ne prend bien ses mesures, on y est aisément trompé, comme je le fus, car à cause de l'extrême hauteur, l'eau se divise et tombe en poussière, et lorsqu'on approche un peu trop de ce nuage, sans s'apercevoir d'abord qu'on se mouille à l'instant, on est tout trempé.
Délicieusement, j'ajouterais.
Délicieusement, absolument.
Il y a une phrase dans le texte que vous venez de lire, « La vie ambulante est celle qu'il me faut ». Ça semble résumer son attitude envers la randonnée, la marche, l'escapade.
Oh, oui. Et même, oui, dans la vie, c'est-à-dire qu'il y avait, je pense, besoin de... D'ailleurs, il n'avait pas d'attache. On lui a reproché d'avoir abandonné ses enfants, d'avoir de pas vouloir avoir de lien et d'attache. Mais voilà, je pense que dans sa philosophie, oui, il y avait ce côté de déambuler. Et dans ses mots, d'ailleurs, je trouve que il y a quelque chose qui est très entraînant, comme dans une marche. En le lisant, tout d'un coup, il y a quelque chose qui donne cette envie de déambuler. Cette envie, on a envie de. Quand il parle de ces roches qui fait courir. Quand il dit qu'il aime les chemins escarpés, il y a quelque chose. Voilà, là, on est vraiment dans la balade des mots. C'est-à-dire, les mots nous invitent vraiment à la balade.
On rejoint son côté enfant.
Ah, totalement. Et c'est génial, parce que d'ailleurs, je pense qu'il doit avoir 70 ans. Il est mort assez vieux, je crois, pour l'époque. Et au début, il dit « Oh, je regrette tellement de ne pas avoir... » Et d'ailleurs, je pensais à ça. J'incite tous les gens qui marchent, écrivez vos voyages, vos marches. Quand vous rentrez, même sur un petit calepin, quelques phrases, on est tous des auteurs en puissance, quelque part.
Alors là, Gustave Flaubert, et son texte a un titre tout à fait délicieux aussi, « N'importe où, pourvu que ce fût loin ».
Le lendemain, sitôt qu'il fit jour, ayant rempli une gourde, fourré dans un de nos sacs un morceau de pain avec une tranche de viande, nous prîmes la clé des champs et, sans guide ni renseignement quelconque, c'est là la bonne façon, nous nous mîmes à marcher, décidés à aller n'importe où, pourvu que ce fût loin, et à rentrer n'importe quand, pourvu que ce fût tard. Nous commençâmes par un sentier dans les herbes. Il suivait le haut de la falaise, montait sur ses pointes, descendait dans ses vallons et continuait dessus en faisant le tour de l'île. Quand un éboulement l'avait coupé, nous remontions plus haut dans la campagne et nous réglant sur l'horizon de la mer, dont la barre bleue touchait le ciel, nous regagnions ensuite le haut de la côte que nous retrouvions à l'improviste, ouvrant son abîme à nos côtés. La pente à pic sur le sommet de laquelle nous marchions ne nous laissait rien voir du flanc des rochers, nous entendions seulement au-dessous de nous le grand bruit battant de la mer. Quelquefois, la roche s'ouvrant dans toute sa grandeur montrait subitement ses deux pans presque droits que rayaient des couches de silex où avaient poussé de petits bouquets jaunes. Si on jetait une pierre, elle semblait quelque temps suspendue, puis se heurtait aux parois, déboulait en ricochant, se brisait en éclats, faisait rouler de la terre, entraînait des cailloux, finissait sa course en s'enfouissant dans les graviers et on entendait crier les cormorans qui s'envolaient. Souvent, les pluies d'orage et les dégels avaient chassé dans ces gorges une partie des terrains supérieurs qui, s'y étant écoulés graduellement, en avaient adouci la pente de manière à y pouvoir descendre. Nous nous risquâmes dans l'une d'elles et nous laissant glisser sur le derrière en nous écorant des pieds et nous retenant des mains, nous arrivâmes enfin en bas sur du beau sable tout mouillé. La marée baissait. Il fallait, pour passer, attendre le retrait des vagues. Nous les regardions venir. Elles écumaient dans les roches à fleur d'eau, tourbillonnaient dans les creux, sautaient comme des écharpes qui s'envolent, retombaient en cascades et en perles et, dans un long balancement, ramenaient à elles leur grande nappe verte. Quand une vague s'était retirée sur le sable, aussitôt les courants s'entrecroisaient en fuyant vers des niveaux plus bas. Les varechs remuaient leurs lanières gluantes, l'eau débordait des petits cailloux, sortait par les fentes des pierres, faisait mille clapotements, mille jets. Le sable trempé buvait son onde et, se séchant au soleil, blanchissait sa teinte jaune. Dès qu'il y avait de la place pour nos pieds, sautant par-dessus les roches, nous continuions devant nous. Elles augmentèrent bientôt leur amoncellement désordonné, tournées, bousculées, entassées dans tous les sens, renversées l'une sur l'autre. Nous nous cramponnions de nos mains qui glissaient, de nos pieds qui se crispaient en vain sur leurs aspérités visqueuses. La falaise était haute, si haute qu'on en avait presque peur quand on levait la tête. Elle vous écrasait de sa placidité formidable et elle vous charmait pourtant, car on la contemplait malgré soi et les yeux ne s'en lasseraient pas. Il passa une hirondelle et nous la regardâmes voler. Elle venait de la mer. Elle montait doucement, coupant au tranchant de ses plumes l'air fluide et lumineux où ses ailes nageaient en plein et semblaient jouir de se déployer toute libre. Elle monta encore, dépassa la falaise, monta toujours et disparut. Cependant, nous rampions sur les rochers dont chaque détour de la côte nous renouvelait la perspective. Ils s'interrompaient par moments et alors nous marchions sur de grandes pierres carrées, plates comme des dalles ou des fentes, qui se prolongeaient en avant deux à deux et presque symétriques semblaient les ornières de quelque antique voie d'un autre monde. Puis, de nouveau, les rochers se présentaient plus serrés, plus accumulés. D'un côté, c'était la mer dont les flots sautaient dans les basses roches. De l'autre, la côte droite, ardue, infranchissable. Fatigués, étourdis, nous cherchions une issue. Mais toujours la falaise s'avançait devant nous et les rochers étendant à l'infini leurs sombres masses de varechs faisaient succéder l'une à l'autre leurs têtes inégales qui grandissaient en se multipliant comme des fantômes noirs qui sortaient de dessous terre. Nous roulions ainsi à l'aventure quand nous vîmes tout à coup, serpentant en zigzag dans la roche, une valeuse qui nous permettait, comme par une échelle, de regagner la rase campagne. Quand nous l'eûmes gravie, nous nous trouvâmes sur le plateau qui domine toute la côte de l'île et continuâmes dans la même direction à travers des champs sans arbres que n'égayait aucune verdure. Il était néanmoins fort doux de n'avoir plus qu'à remuer les pieds et à les pousser devant soi. Un petit bois de pin grêle s'offrit, nous y entrâmes et ayant débouclé le sac qui depuis 4 heures me ballottait aux épaules, nous commençâmes à déchiqueter avec nos ongles et nos mains la tranche de veau froid qui s'y boxonnait contre le morceau de pain.
J'aurais aimé être avec lui.
Oui, absolument. C'est vraiment... C'est très... D'abord, il a une façon de décrire... Bon, c'est Belle-Île en mer qui est une île absolument magnifique, mais de décrire ce contraste entre la mer et les falaises et la terre, je trouve que c'est, là encore, Dieu que ces mots nous entraînent en balade.
Et j'aime beaucoup son expression « Nous roulions ainsi à l'aventure ».
Oui,
ça dit tout.
Ça dit tout.
On pense au nomade prophète qu'était Jacques Lacarrière et en fait, il raconte dans un de ses bouquins sa traversée de la France à pied, soit 1000 kilomètres, et je le cite, « pour retrouver nos racines perdues dans le grand message des horizons ». C'est fabuleux.
C'est tellement bien dit. Une fois de plus, au terme du voyage, je me rends compte combien se déplacer ainsi tout au long des chemins, musarder à travers la France, est affaire de temps beaucoup plus que d'espace. Je veux dire qu'en marchant, c'est votre temps qui change, non votre espace. Et l'on comprend pourquoi il n'est de vrai voyage qu'au cœur de cette durée réinstaurée que crée l'écoulement des centres et des jours, car elle agit sur le temps intérieur qui semble alors se dérouler à contresens, comme si, par la seule magie d'un voyage obstiné, la grande corolle des saisons, la rosace des astres, inversait brusquement leur habituelle rotation. Et agissant sur notre temps interne, elle agit par là même sur les scories qu'il laisse en nous, sur les bribes de notre mémoire qui devient à la fois souvenance et prémonition, cristal du temps passé et irradiance de l'instant retrouvé. Tel est, dans tous les sens du mot, le terme « passager », le grand message des chemins. Rien de plus que cela, mais rien de moins non plus. Ce n'est pas cela exactement que j'ai cherché confusément, ce n'est pas cela que j'imaginais au début de mon pèlerinage à Saverne. Mais c'est cela que j'ai trouvé. Et c'est par cela, grâce à cela, que tant de paysages, de visages, de phrases et de silences se sont peu à peu ajustés en moi, ont pris place dans les strates du temps, comme des reliefs stabilisés dans la grande mémoire intérieure. Juste au col de Feuillade, où la route descend jusqu'à Treille, où j'allais quelques jours me reposer chez des amis, je vis d'abord les collines ocre parsemées de buissons, les villages disséminés sur les versants et, à leurs pieds, une plaine gris-bleue, infinie, sans le moindre labour, sans la moindre maison. Cette plaine, c'était tout simplement la mer. Je ne l'attendais pas encore, je l'imaginais plus lointaine et plus inaccessible. Hier encore, à Perpétuse, pas un seul instant je n'avais songé à elle, pensé qu'elle était là, si près, cette mer d'Ariane, aussi bleue, aussi calme qu'en Grèce, quand les Meltèmes ne soufflent pas. Aucun bateau en vue. À sa lisière, une plage blanche, étirée, entièrement déserte. Au loin, vers l'est, dans la brume, mes souvenirs imaginant les îles blanches de la Grèce. Je ne suis plus dans les corbières, sur un sol de rocs et de corbeaux. Je suis entre ciel et terre, dans la substance bleue de l'air et de la mer, à mi-chemin de tous les mondes. Déjà je sens, mer, ton eau claire et ton sable blanc, et j'entends une voix familière qui me dit « Comme Ulysse, il te faut repartir, puisque dans le temps retrouvé, terme et seuil sont une même chose. » Le monde de l'errance n'est jamais mort, ni en nous, ni autour de nous. Qu'il ait ou non un but et des repères précis, dans les pèlerinages ou les déplacements des compagnons ou des repères imprécis, chez les missionnaires, les frères prêcheurs, les métiers ambulants d'autrefois, il n'a cessé au cours des siècles de fasciner ou d'horrifier, d'inspirer la crainte ou l'admiration. L'histoire fondamentale des rapports très complexes entretenus entre les sédentaires et les nomades, cette histoire reste encore à faire. On l'a entrepris pour des époques ou des lieux limités, mais jamais dans une perspective d'ensemble qui en dégagerait les axes, les courants, les jalons. Car tour à tour chassé, repoussé, excommunié ou au contraire fêté, recherché, imploré, l'errant apportait avec lui, selon les mentalités, les besoins des différentes communautés, un monde de damnation ou un monde de salut. Les routes, les chemins, les sentiers parcourant la France ont ouvert les portes de l'enfer ou celles du paradis. Ils furent sur notre terre comme les infrastructures de l'amour ou de la haine, les voies qui amenaient le frère ou l'ennemi. Et aujourd'hui, rien de cela n'est mort. Notre société hyper-urbanisée semble consacrer à jamais la victoire des sédentaires. Elle recèle pourtant plus que jamais ces ferments qui nous portent à bouger, à partir, à nous jeter avec fureur vers les loisirs organisés ou non. Peu importe les motivations. On ne part plus sur les routes pour prêcher, ni faire son salut, pour conquérir quelques graals au cœur des châteaux forts. Mais l'image n'est pas morte, bien qu'elle soit caricaturale aujourd'hui, des paradis promis et trouvés par le départ et par l'errance. Cette quête fiévreuse du loisir, graal de notre époque, a pris fatalement des formes organisées et moins chevaleresques qu'autrefois. Des formes saisonnières aussi, retrouvant par moments l'ampleur des vieilles migrations. C'est pourquoi on accepte très bien les vacanciers, les campeurs, voire les randonneurs, moins bien le vagabond, le solitaire marchant pour son plaisir en dehors des sentiers battus. Le plus révélateur pour moi dans ce voyage des quelques mois fut justement l'étonnement, l'incertitude et surtout la méfiance que je lisais sur maint visage. Affronter l'imprévu quotidien des rencontres, c'est rechercher une autre image de soi chez les autres. Briser les cadres et les routines des mondes familiers, c'est se faire autre et, d'une certaine façon, renaître. La lassitude, le découragement, le sentiment d'absurdité ou d'inutilité de l'entreprise qui vous prennent quelquefois aux heures difficiles ou mornes de la marche deviennent autant d'épreuves qui n'ont d'ailleurs rien de tragique. De plus en plus, ceux qui réclament autre chose que le visage artificiel des villes, les rapports routiniers, conventionnels de nos cités, iront chercher sur les routes ce qui leur manque ailleurs. Je me dis qu'en marchant ainsi, on ne recherche pas que des joies archaïques ou des heures privilégiées. On ne fait qu'errer dans le labyrinthe des chemins embrouillés qui nous ramèneraient à nous-mêmes, mais qu'au contraire, on découvre les autres et avec eux, cette Ariane invisible qui vous attend au terme du chemin. Marcher ainsi de nos jours, et surtout de nos jours, ce n'est pas revenir au temps néolithique, mais bien plutôt être prophète.
Sophie, il y a une phrase qui m'a frappée. Affronter l'imprévu quotidien des rencontres, c'est rechercher une autre image de soi chez les autres.
Un reflet, la rencontre, ouais. C'est tout d'un coup, je pense, une façon aussi de voyager, c'est-à-dire de rencontrer l'altérité.
Oui.
C'est pour ça que c'est assez amusant. Lui parle au contraire de ces rencontres au niveau de l'autre qui nous permet une autre intériorité versus Jean-Jacques Rousseau qui préfère être seul. C'est donc je ne sais plus quel auteur dit à un moment donné il y a autant de marches que de marcheurs. Donc je pense que marcher c'est aussi rencontrer l'autre pour se rencontrer soi-même différemment.
Sophie, nous avons beaucoup de pèlerins et de pèlerines à l'écoute de l'émission Marcher vers le bien-être. Vous nous parlez maintenant d'un texte qui, lui, illustre bien les effets du virus de Saint-Jacques.
Pourquoi ? C'est évidemment la question que se posent les autres, même quand ils ne vous la posent pas. Chaque fois qu'au retour, vous prononcerez la phrase « Je suis allé à Compostelle à pied ». Vous noterez la même expression dans les regards. Elle traduit d'abord l'étonnement, qu'est-ce qu'il est allé chercher là-bas ? Puis, à une certaine manière, de vous dévisager à la dérobée, la méfiance. Au lieu d'exprimer son embarras, la meilleure solution est encore de livrer quelques indices, au besoin en les inventant, pour égarer la curiosité de celui qui vous interroge et le mener sur de fausses pistes. Il y avait des coquilles à Saint-Jacques sur les monuments dans la ville de mon enfance, piste freudienne. J'ai toujours été fasciné par les grands pèlerinages du monde, piste œcuménique. J'aime le Moyen-Âge, piste historique. Oh, je voulais marcher vers le soleil couchant jusqu'à rencontrer la mer, piste mystique. J'avais besoin de réfléchir. Cette dernière réponse est la plus attendue, au point d'être considérée généralement comme la bonne réponse. Elle ne va pourtant pas de soi. N'est-il pas possible et même préférable, pour réfléchir, de rester à la maison, de traîner au lit ou dans un fauteuil, ou à la rigueur de faire quelques pas sur un itinéraire proche et familier? Comment expliquer à ceux qui ne l'ont pas vécu que le chemin a pour effet, sinon pour vertu, de faire oublier les raisons qui ont amené à s'y engager? À la confusion et à la multitude des pensées qui ont poussé à prendre la route. Il substitue la simple évidence de la marche. On est parti, voilà tout. C'est de cette manière qu'il règle le problème du pourquoi, par l'oubli. On ne sait plus ce qu'il y avait avant, comme ces découvertes qui détruisent tout ce qui les a précédés. Le pèlerinage de Compostelle, tyrannique, totalitaire, fait disparaître les réflexions qui ont conduit à l'entreprendre. On aperçoit déjà ce qui fait la nature profonde du chemin. Il n'est pas débonnaire, comme le croient ceux qui ne sont pas livrés à lui. Il est une force. Il s'impose, il vous saisit, vous violente et vous façonne. Il ne vous donne pas la parole, mais vous fait taire. La plupart des pèlerins sont d'ailleurs convaincus qu'ils n'ont rien décidé par eux-mêmes, mais que les choses se sont imposées à eux. Ils n'ont pas pris le chemin. Le chemin les a pris. De tels propos, j'en ai conscience, rendent suspects aux yeux de ceux qui n'ont pas connu cette expérience. Moi-même, avant de partir, j'aurais haussé les épaules en entendant ce genre de déclaration. Elles sentent la secte à plein nez. Elles révoltent la raison. Pourquoi ? C'est évidemment la question que se posent les autres, même quand ils ne vous la posent pas. Pourtant, très vite, j'ai constaté leur justesse. Chaque fois qu'il s'est agi de prendre une décision, j'ai senti le chemin agir puissamment en moi et me convaincre, pour ne pas dire me vaincre. À l'origine, j'avais simplement décidé de faire une grande marche solitaire. J'y voyais un défi sportif, un moyen de perdre quelques kilos, une manière de préparer la saison de montagne, une purge intellectuelle avant d'entreprendre la rédaction d'un nouveau livre. Le retour à une nécessaire humilité après une période marquée par les fonctions officielles et les honneurs. Rien de tout cela en particulier, mais tout à la fois. Je n'avais pas envisagé précisément de parcourir le chemin de Saint-Jacques. Il n'était qu'une des très nombreuses options que j'envisageais, du moins le croyais-je. J'étais encore à la phase où l'on rêve sur des livres, des récits, où l'on regarde des photos et des sites internet. Je me croyais libre de décider, souverain. La suite devait me montrer que j'avais tort. Peu à peu, mon choix s'est restreint et les options se sont resserrées, tiens, tiens, autour des itinéraires vers Saint-Jacques. Finalement, je n'ai retenu que deux possibilités, la haute route pyrénéenne et le chemin de Compostelle par le nord. Je choisis le chemin de Compostelle. À la vérité, quand j'y pense, je ne faisais que céder à une attraction mystérieuse et de plus en plus forte. Je pouvais bien rationaliser, il n'avait jamais été sérieusement question que j'entreprenne autre chose. La variété des projets n'était qu'un leurre, un moyen commode pour masquer cette évidence désagréable. Je n'avais en réalité pas eu le choix. Le virus de Saint-Jacques m'avait profondément infecté. J'ignorais par qui ou par quoi s'est opérée la contagion. Mais après une phase d'incubation silencieuse, la maladie avait éclaté et j'en avais tous les symptômes. Il y a beaucoup d'humour.
Et je pense qu'il y a plusieurs auditeurs et auditrices qui ont ce symptôme, justement.
Qui se retrouveront dans ce texte,
oui,
certainement.
C'est ça, oui, oui, parce qu'il dit « je n'avais pas en réalité le choix ». C'est prenant ce Compostelle. Alors, Sophie, nous terminons avec un très beau texte de Charles Péguy intitulé « 144 km en 3 jours » et je donne un peu le contexte. En 1912, son plus jeune fils, âgé de 9 ans, tombe gravement malade. Bouleversé, Peggy fait un vœu. Le 14 juin, d'abord accompagné par Alain Fournier, il se met en route vers Notre-Dame de Chartres. Après 3 jours de marche, il aperçoit dans la plaine de Beauce la flèche inimitable de la cathédrale. Il reviendra un an plus tard rendre grâce à la Vierge de la guérison de son fils.
Mon petit Pierre a été malade. Une diphtérie en août, en arrivant à la mer. Alors mon vieux, j'ai senti que c'était grave. Il a fallu que je fasse un vœu. Ne mets pas ça dans ton canard surtout. J'ai fait un pèlerinage à Chartres. Je suis beauceron. Chartres est ma cathédrale. Je n'avais aucun entraînement. J'ai fait 144 kilomètres en 3 jours. Ah, mon vieux, les croisades, c'était facile. Il est évident que nous autres, nous aurions été les premiers à partir pour Jérusalem et que nous serions morts sur la route. Mourir dans un fossé, ce n'est rien. Vraiment, j'ai senti que ce n'était rien. Nous faisons quelque chose de plus difficile. On voit le clocher de Chartres à 17 kilomètres sur la plaine. De temps en temps, il disparaît derrière une ondulation, une ligne de bois. Dès que je l'ai vu, ça a été une extase. Je ne sentais plus rien, ni la fatigue, ni mes pieds. Toutes mes impuretés sont tombées d'un coup. J'étais un autre homme. J'ai prié une heure dans la cathédrale le samedi soir. J'ai prié une heure le dimanche matin avant la grand-messe. Je n'ai pas assisté à la grand-messe, j'avais peur de la foule. J'ai prié, mon vieux, comme jamais je n'ai prié. J'ai pu prier pour mes ennemis. Ça ne m'était jamais arrivé. Quand je dis ennemis, tu comprends bien que je ne parle pas des Laudais. Ceux-là, je suis capable de prier pour eux tous les jours. Mais il y a certains ennemis, certaines qualités d'ennemis, s'il fallait prier pour eux en un temps normal, immanquablement, j'aurais une crise de foi. Non, mon foi ne me permettrait pas. Mon gosse est sauvé. Je les ai donnés tous trois à Notre-Dame. Moi, je ne peux pas m'occuper de tout. Je n'ai pas une vie ordinaire. Ma vie est une gageure. Nul n'est prophète en son pays. Mes petits ne sont pas baptisés. À la Sainte Vierge de s'en occuper. J'ai un office. J'ai des responsabilités énormes. Au fond, c'est une renaissance catholique qui se fait par moi. Il faut voir ce qui est et tenir bon. Et suite à ce pèlerinage, ces 144 kilomètres, il a écrit un très beau poème qui s'appelle « Présentation de la Beauce à Notre-Dame de Chartres ». Vous nous voyez marcher sur cette route droite, tout poudreux, tout crotté, la pluie entre les dents, sur ce large éventail ouvert à tous les vents. La route nationale est notre porte étroite. Nous allons devant nous, les mains le long des poches, sans aucun appareil, sans fatras, sans discours, d'un pas toujours égal, sans hâte ni recours, des champs les plus récents vers les champs les plus proches. Vous nous voyez marcher, nous sommes la piétaille, nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois. Mais 20 siècles de peuples et 20 siècles de rois et toutes leurs séquelles et toutes leurs volailles et leurs chapeaux à plumes avec leurs valetailles ont appris ce que c'est que d'être familier et comme on peut marcher les pieds dans les souliers vers un dernier carré le soir d'une bataille.
C'est très touchant ce texte de Peggy.
Oui, inspiré par ce pèlerinage, je trouve ça très, très beau. Et quand il dit « nous n'avançons jamais que d'un pas à la fois
oui. »,
ça résume la vie en fait. Après quoi courons-nous au fond?
Sur cette belle note, Sophie, merci beaucoup, tellement gentil de votre part de partager ces merveilleux textes et de nous inviter à l'errance, au vagabondage, à la liberté.
Ben merci à vous de m'avoir aussi fait découvrir ces textes.
Et à la prochaine, Sophie.
À très bientôt. Merci. Thank you.
Chers amis, c'est ainsi que se termine cet épisode de Marcher vers le bien-être. Nous espérons qu'il vous a plu. Je tiens à remercier de sa participation Sophie Hartung. Merci également à Jérôme Costigan et Lysandre Duplé à la technique et au montage. Et merci à vous toutes et tous d'avoir été des nôtres pour Marcher vers le bien-être. Je vous rappelle que Marcher vers le bien-être est diffusé les mardis à 22h et rediffusé les mercredis à 11h, les vendredis à minuit et les samedis à 10h. Vous pouvez aussi l'écouter en direct sur le site de Radio VM ou en différé sur le tout nouveau site jemarchepartout.com où vous trouverez descriptifs et références pour tous les épisodes. Un moteur de recherche vous permet d'ailleurs d'y trouver rapidement les sujets qui vous intéressent et de télécharger les épisodes choisis. Je vous laisse cette semaine avec une pensée de Pascal Bruckner. Les escapades du marcheur sont pour lui ce moment béni où le corps peut vivre autrement que par les yeux. Sur ce, je vous souhaite bonne route et à la prochaine!